question.
D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Amélie Beaucourt.
Bonjour et ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on remonte loin, très loin dans le passé, avant les mammouths, avant même les dinosaures. On va se pencher au-dessus du berceau de notre petite planète, au moment où elle a ouvert ses grands yeux bleus. Comment a-t-elle été conçue? Quelle enfance mouvementée a-t-elle eue? Comment nous, êtres vivants, sommes bien plus tard apparus dans sa vie? Et comment avons-nous changé son destin en lui donnant froid, très froid parfois, ou chaud, très chaud? Pour répondre à ces questions, nous recevons Anne Nedelec, géologue, qui occupe sa vie de jeune retraitée en écrivant cette histoire fascinante de la Terre. Elle a compilé 30 ans de recherche dans ce livre, La Terre et la vie, une histoire de 4 milliards d'années, paru chez Odile Jacob. Une histoire d'amour tumultueuse qu'elle va nous raconter dans un instant. Bienvenue à elle.
La Terre. Peut-être la seule planète de l'univers à abriter la vie. Mais pourquoi est-elle si extraordinaire? Les réponses sont enfouies dans les profondeurs de son passé. Pour en savoir davantage, il nous faut remonter le temps, à l'époque des premiers humains. Suivre l'irrésistible dérive des continents et affronter les dinosaures. Nous allons plonger dans des océans remplis d'étranges créatures. Endurer le froid intense des périodes glaciaires. Et subir les attaques effrénées de projectiles cosmiques. Nous devrons voyager à travers le temps pour remonter jusqu'à l'origine même de la Terre. Nous pourrons alors reconstituer l'histoire incroyable de notre planète pour comprendre comment et pourquoi le monde est ce qu'il est, tel que nous le connaissons.
Anne Nedelec, vous êtes en duplex depuis les studios de France Bleu Brésisel en Bretagne. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Amélie.
Alors vous avez collecté dans ce livre tout ce que vous avez pu apprendre en 30 ans de recherche. Aujourd'hui vous êtes professeure émérite de sciences de la Terre à l'université de Toulouse et on sent la patte de l'enseignante quand on parcourt votre ouvrage parce que vous avez souhaité non pas écrire un livre pour les initiés mais pour le plus grand nombre, pour les néophytes dont nous faisons partie. Pourquoi avoir pensé à nous, Anne Nedelec, quand vous pouviez vous adresser à une communauté plus spécialisée?
Eh bien, précisément parce que je voulais élargir l'auditoire. On sait maintenant pas mal de choses sur l'histoire de la Terre et de la vie. Il reste encore des zones d'ombre, des mystères, mais on sait quand même pas mal de choses. On peut retracer une histoire en suivant un fil chronologique. J'avais envie de raconter cette histoire au plus grand nombre de personnes intéressées. Voilà.
Alors, on va commencer, si vous le voulez bien, ce voyage dans le temps avec la question d'un de nos auditeurs. D'ailleurs, pour les plus attentifs d'entre vous, on fera gagner un exemplaire de votre ouvrage, Anne Nedelec, à la fin de l'émission. La première question remonte, bien sûr, à la création. C'est Aliou Djibril Moriba de Cotonou au Bénin qui vous demande, Anne Nedelec, la Terre s'est-elle formée au même moment que les autres planètes de notre système solaire ou bien chaque planète a sa propre histoire et ses propres origines?
En fait, non. Le Soleil et les planètes se forment en même temps, à partir du même nuage de gaz et de poussière qu'on appelle une nébuleuse. Et en l'occurrence, c'est la nébuleuse protosolaire qui donnera notre système solaire. Voilà, et ça se passe il y a 4 milliards et demi d'années.
Comment on connaît cet âge de la Terre, justement? Parce que c'est quelque chose dont on ne peut pas être... certains, mais c'est une hypothèse qui a été finalement admise avec le temps.
Alors, c'est une idée qui est venue assez récemment quand même, puisque ça date à peu près de la moitié du siècle précédent, où un chercheur a eu l'idée de dater la Terre en datant les météorites. Parce qu'on ne connaît pas sur Terre de roches remontant à l'origine de la Terre. Par contre, on trouve sur Terre des météorites ou des fragments de météorites, plus ou moins gros, relativement nombreux. Et en faisant l'hypothèse que tout s'est formé en même temps dans le système solaire, donc la Terre, les autres planètes et les météorites qui sont des fragments qui soit appartenaient à des petites planètes ou n'ont pas encore contribue à donner des planètes, eh bien, on avait l'âge de l'ensemble. Voilà l'hypothèse qui a été faite, qui est toujours admise, bien sûr. Et dès les années 50, on a daté un certain nombre de météorites de 4,5 milliards d'années et on admet que c'est l'âge de la Terre et des autres planètes du système solaire.
Alors à partir de là, Anne Hédélec, le temps devient une question très relative. On parle tout au long de votre ouvrage sur des échelles de temps qui sont assez difficiles à imaginer vu de notre place microscopique sur cette gigantesque frise chronologique. Alors il faut imaginer qu'en partant d'aujourd'hui, on dézoome au maximum pour se rendre loin, très loin dans le passé. Vous êtes intéressée, Anne Hédélec, aux 500 premiers millions d'années de la Terre, si on regarde donc la frise de très très loin. Autrement dit, si la Terre était une vieille dame qui fêtait aujourd'hui, disons, son centenaire, pour ramener ça à une toute petite échelle, les 500 millions d'années correspondent à sa toute petite jeunesse. Qu'est-ce qu'on en sait de sa jeunesse à la planète Terre ?
Oui, ce seraient les dix premières années d'une centenaire. Et ces 500 premiers millions d'années, qui constituent une période qu'on appelle l'AD1, on en sait pas beaucoup de choses, pas grand-chose, précisément parce qu'il ne reste pas sur Terre de roches de cet âge-là, ou qu'on n'en a pas encore trouvé, là, on ne sait pas trop. Mais on a quand même trouvé des minéraux qui datent de cette époque et qu'on peut dater avec précision, qui sont des zircons, des silicates de zirconium, et qui peuvent contenir en très petite quantité un élément très intéressant qui est l'uranium. Or, l'uranium a deux isotopes, deux formes radioactives qui se désintègrent très très lentement en cours du temps. Donc l'uranium qui est présent dans ces très vieux zircons, il en reste encore. Et en fonction de la quantité d'uranium présente, par rapport à la quantité de plomb issue de la désintégration d'une partie de l'uranium présent au départ, eh bien, on peut dater précisément des zircons qui remontent à cette période de l'AD1, qui remontent à quelque part entre 4,5 milliards et 4 milliards d'années. Au départ, ces zircons, on les a trouvés surtout en Australie. Ce sont les Australiens, les chercheurs australiens qui ont fait ces découvertes merveilleuses de zircons très très vieux. Et puis après, on a commencé à en trouver sur d'autres continents. Et voilà, c'est tout ce qu'on a sur Terre. Pour autant, je signale au passage, parce que la Lune, notre satellite, qui est très très gros par rapport à la taille de la planète Terre, on a un gros satellite, on a ramené de la Lune des échantillons, après les missions Apollo, un certain nombre de missions Apollo, et ces échantillons de la Lune ont été datés aussi. Et chose extraordinaire, là, on date des roches de cette période. On a sur la Lune des roches qui datent de plus de 4 milliards d'années, alors que sur Terre, on n'en a pas. Alors, on peut se demander pourquoi. C'est une question qui reste d'ailleurs ouverte et en discussion. Mais une partie de la réponse, on la pressent quand même, parce que la Lune est en quelque sorte un astre mort, qui n'a pas beaucoup évolué depuis sa formation, à part lorsqu'elle a reçu d'autres météorites ou d'autres fragments de planètes. Elle est criblée de cratères d'impact, la Lune, depuis l'origine. Et sur Terre, il y a un environnement dynamique, il y a des océans, il y a une atmosphère, et il y a, on le sait bien aujourd'hui, une tectonique des plaques. Tout cela renouvelle la surface de la Terre au fil du temps. Et donc, les roches qu'on trouve à la surface de la Terre sont d'âge varié. Les plus anciennes remontent à il y a 4 milliards d'années. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Mais plus que 4 milliards d'années, on ne trouve pas, ou on n'a pas encore trouvé sur Terre, de roches plus anciennes.
On va parler un petit peu plus tard de comment, justement, vous, en tant que géologue, vous avez analysé certaines de ces roches. Mais avant, on va introduire un élément indispensable pour comprendre la suite de l'histoire de la planète. Un élément qui n'a pas bonne presse, mais qui pourtant est un peu à l'origine de tout.
Vous croyez me connaître ? Mais en êtes-vous bien sûr ?
Levels of carbon pollution in our atmosphere have increased dramatically.
Daily choice is to reduce their carbon footprint.
We'll abolish the carbon tax.
Global carbon emissions are tipped to hit a record high this year.
Yet another war over carbon.
People saying we have a carbon.
J'entends dire, on a un problème avec le carbone. Quelle est votre empreinte carbone? Quelle est votre taxe carbone? Mais ne vous en prenez pas au carbone. Ce n'est pas sa faute à lui.
Le carbone est très important dans l'univers. Il est ce qui nous rend possible.
Nous sommes la nature, car nous sommes faits de carbone, comme tout le reste.
Chacun de nous vit dans un monde de carbone. Nous devons apprendre à cohabiter avec le carbone.
Si la civilisation humaine veut survivre, rien n'est plus urgent que de comprendre qui est le carbone et où il aime se cacher.
Je suis l'élément de la Terre dont on parle le plus, mais celui qu'on connaît le moins. Si vous voulez me survivre, vous allez devoir me comprendre.
Anne Nedelec, vous avez, vous, essayé de comprendre aussi le carbone. Il y a une scientifique dans ce petit reportage qui demande qui est le carbone. Est-ce que vous avez la réponse?
Alors, le carbone est un élément qui fait partie des éléments présents sur Terre, des éléments apportés par des météorites, des fragments rocheux de toutes sortes qui ont constitué la Terre. Alors, des fragments qui contenaient surtout du silicium et du fer, puis d'autres éléments aussi, hein, c'est ce qui forme la Terre solide. Mais certaines météorites contenaient aussi du carbone. On parle de météorites carbonées. Et c'est ce carbone qui permet à la Terre de porter des êtres vivants aujourd'hui, hein, puisque les êtres vivants sont formés de carbone, voilà, de carbone associé à de l'hydrogène. Mais sans carbone, pas de vie, pas d'être vivant. Alors le carbone existe aussi sur Terre, sous la forme de gaz. Et c'est le gaz carbonique dont on parle beaucoup. Le CO2, hein, il y a un atome de carbone pour deux atomes d'oxygène. Mais aujourd'hui, on s'inquiète de l'augmentation de la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Et c'est vrai qu'elle augmente assez rapidement en ce moment. Mais il faut, pour relativiser et surtout pour avoir une perspective sur le long terme, parce que c'est ça que j'ai essayé de communiquer, il faut bien se rendre compte qu'au début de l'existence de l'atmosphère terrestre, il y avait beaucoup plus de carbone dans l'atmosphère terrestre à ce moment-là. Hein. Il y en avait vraiment beaucoup plus, probablement 20 à 100 fois plus, peut-être même encore, on ne sait pas très précisément, mais on est certain qu'il y en avait beaucoup plus au début de l'existence de la Terre, vous voyez.
On va continuer tout de suite notre voyage sur Terre à vos côtés, Anne Nedelec, et pour ça, on enfile notre combinaison de plongée sous-marine.
Autour de la question... sur RFI.
Nous voici donc sous l'eau à présent, Anne Nedelec, vous l'avez compris. On va faire plusieurs allers-retours entre la Terre et l'océan. Mais d'abord, on aimerait comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé là. En tout cas, comment l'eau est arrivée sur Terre, comment les océans se sont formés.
Les océans se sont formés certainement très tôt. Il faut donc se reporter il y a 4,5 milliards d'années. L'agglomération de poussière, de fragments rocheux, de fragments de météorites plus ou moins gros a fini par constituer une petite planète et puis enfin notre planète Terre. Alors évidemment ça s'est constitué par des collisions incessantes amenant beaucoup d'énergie qui donne de la chaleur au moment du choc. Donc la Terre ou la proto-Terre a subi une fusion au moins partielle à sa surface sous l'effet de ces chocs. Et donc, les fragments rocheux qui la constituent, ou sa surface rocheuse, composition de météorites, a fondu. La Terre initiale était recouverte par un océan de magma, c'est-à-dire un océan à composition de météorites fondues, qui s'est séparé en deux, donnant une partie liquide ferreuse, très dense, c'est un peu contre-intuitif parce qu'il y a des liquides qui sont très denses puis d'autres qui sont moins denses. Le liquide ferreux migre vers le centre de la planète en formation, il donne son noyau et le reste garde la partie silicatée des météorites et ça donne le manteau et puis la croûte terrestre. Mais ce magma, qui n'a pas encore, qui s'est pas encore solidifié, il faut probablement quelques dizaines de millions d'années pour cela, il contient aussi d'autres éléments en solution. Il contient un petit peu d'eau, il contient un petit peu de carbone, et ça donnera en fait le gaz carbonique et l'eau de l'atmosphère. C'est ce qu'on appelle le dégazage de l'océan magmatique. L'océan magmatique, quand il cristallise progressivement, la partie liquide qui reste se concentre en éléments et en composés volatiles, comme l'eau et le CO2. Et à la fin, ceux-ci sont tellement concentrés qu'ils sont libérés. Et c'est l'atmosphère primitive, cette atmosphère primitive qui est très riche en CO2, très riche en eau, sous forme de gaz à ce moment-là. Mais le refroidissement relativement rapide à l'échelle géologique de l'atmosphère va faire que l'eau va devenir liquide.
Et constituer les océans.
Il va pleuvoir, si vous voulez, ça va être une sorte de déluge qui va constituer les océans. Donc on va voir les océans surmontés par une atmosphère riche en CO2. Une atmosphère riche en CO2, c'est ce qu'on trouve à l'époque autour des autres planètes qu'on appelle telluriques, qui ressemblent à la Terre, qui sont rocheuses, comme Vénus ou Mars, nos deux voisines. C'est normal d'avoir une atmosphère riche en CO2 cette époque-là.
On va continuer notre balade aquatique avec vous, Anne Edelec. Mais d'abord, on va faire une petite escale au Cameroun, où vous êtes allée faire vos recherches dans les années 80. On en parlera juste après, un morceau que vous allez reconnaître. Dans Autour de la question sur RFI, une chanson que vous connaissez bien, Anne Edelec, puisque vous êtes allé, je le disais, faire vos recherches sur les plus vieilles roches terrestres au Cameroun. Vous avez également enseigné dans ce pays. Quel souvenir est-ce que vous en gardez ?
Bon, j'en garde un souvenir merveilleux. J'ai beaucoup aimé le Cameroun. J'y ai passé 5 ans et on ne passe pas 5 ans dans un pays sans en être un petit peu marqué, influencé, changé aussi probablement. Donc, j'ai toutes sortes de bons souvenirs du Cameroun. Et effectivement, c'est le pays où j'ai commencé ma carrière d'enseignant-chercheur à l'université de Yaoundé à l'époque. À l'époque, quand je suis arrivée, je découvrais le Cameroun, je découvrais la géologie du Cameroun et il fallait trouver un sujet de recherche. Et le directeur du laboratoire de géologie à l'époque, feu le professeur Martin Hénaud-Bellinga, m'a encouragée à aller dans le sud du pays. L'université, il n'y en avait qu'une à l'époque, était à Yaoundé. Il m'avait dit, vous aurez beaucoup d'avantages à aller travailler dans le sud. D'abord, c'est pas loin de Yaoundé, vous y allez avec votre propre voiture. Il dit, c'est ma région, il me disait, c'est ma région d'origine et je sais que les villageois sont très accueillants. Vous pouvez circuler sans aucun problème, en toute sécurité. Et les villageois vous aideront même si nécessaire. Et tout cela était vrai. Et en plus, scientifiquement parlant, on savait que les roches du sud Cameroun étaient vieilles. Alors, ce ne sont pas les plus vieilles roches de l'histoire de la Terre, hein, mais elles ont près de 3 milliards d'années. C'est quand même pas mal. Par contre, ces roches étaient datées, mais on ne les connaissait pas tellement. On savait qu'elles ressemblaient à des granites, mais on n'en savait pas plus. Il fallait aller les regarder de près, les analyser et les comparer à des roches de même âge dans d'autres pays, dans d'autres continents. C'est comme ça que j'ai commencé. Voilà.
Et justement, ça n'a pas été le seul pays dans lequel vous êtes parti faire des recherches. On verra ça un peu plus tard dans l'émission. On va continuer notre voyage. Ce qui se profile à l'horizon, c'est bien sûr la naissance de la vie. Alors, on reste sous l'océan, mais on plonge encore plus loin pour remonter à la source.
Au-delà de 300 mètres de profondeur, il fait sombre, car les rayons du soleil sont filtrés par la densité de l'eau. Et la température est glaciale. Cette cité de cheminées sous-marines n'est pas un mirage. Un liquide bouillant s'échappe des conduits. En s'infiltrant à travers des crevasses dans la croûte terrestre, l'eau de mer se réchauffe et se charge en minéraux et en gaz. Elle regagne l'océan sous la forme d'une mixture active qui donne naissance à ces concrétions. Si l'on ajoute tous les minéraux et les éléments issus des météorites, l'océan ressemble désormais à une soupe chimique. Il est impossible de déterminer quand et comment cela s'est produit, mais ces différents composants se sont assemblés pour créer la vie.
Une soupe chimique, nous dit-on dans ce reportage. Quels ingrédients contenait cette soupe, Anne Nedelec ?
Alors, soupe, c'est un mot peut-être un petit peu trompeur pour l'auditeur, hein, parce qu'on a l'impression que c'est plus de l'eau et que c'est chargé de beaucoup de choses, pas de légumes, mais enfin beaucoup de choses en suspension. Donc, c'est pas exactement ça, ce sont beaucoup d'éléments en solution, ça oui. Et effectivement, des éléments issus de du plancher océanique de l'époque. Alors l'époque, quelle époque ? Voilà la question. Aujourd'hui, les plus anciens fossiles que l'on ait pu déterminer ont presque 3,8 milliards d'années. Bon, c'est beaucoup.
Ça veut dire que la Terre existe déjà depuis...
Depuis 700 millions d'années.
Depuis 700 millions d'années.
Donc là, il y a une grosse parenthèse où on ne sait pas quoi mettre. Hein. On ne sait pas à quand on remonte exactement l'apparition de la vie. Mais les premières traces fossiles remontent à 3,8 milliards d'années.
Et qu'est-ce qu'on trouve sur ces fossiles, sur
alors,
ces traces ?
Ce sont des traces. Hein. Ce ne sont pas réellement... Des fossiles, ce sont des traces comme interprétées comme étant le résultat de l'activité d'êtres vivants microbiens, parce qu'il n'est pas question d'imaginer des animaux de grande taille. À l'époque, les êtres vivants n'ont qu'une cellule, ce sont des unicellulaires, des cellules simples en plus, sans noyau de la cellule, de ce qu'on appelle des prokaryotes, qui sont soit des bactéries, soit des archées. Ce sont les groupes qui existent à ce moment-là. Et
donc ce sont des organismes microscopiques.
Ah oui, absolument. Ce sont des organismes microscopiques.
Et comment on fait pour les détecter dans ce cas, s'ils sont si petits ?
Alors justement, ils ont dû, à certains endroits, être suffisamment nombreux pour former des tapis ou des masses microbiennes, mais en tout cas visibles, enfin, à l'œil nu, bon, si on avait été présent à l'époque. En tout cas, ils ont laissé des traces qu'aujourd'hui, on peut reconnaître à l'œil nu. Ce sont, par exemple, ce qu'on appelle les stromatolites. Les stromatolites qu'on sait reconnaître dans les roches très anciennes, et d'autant plus facilement qu'aujourd'hui, ils se forment encore des stromatolites de nos jours. par exemple, en Australie, dans un endroit qui s'appelle Shark Bay. Shark Bay, la baie du requin en Australie occidentale. C'est un endroit où on a des stromatolites actuels. Et on voit donc à quoi ils ressemblent. On voit qu'ils sont dus à la présence de bactéries particulières, des cyanobactéries, qui sont très nombreuses, qui prolifèrent sur cet estran littoral et qui emprisonnent des fragments de sédiments ou de sable. Et l'ensemble, le tapis bactérien, plus le sédiment, après la mort des bactéries, devient induré, devient dur et crée une structure reconnaissable à l'œil nu, aussi bien aujourd'hui que, pense-t-on, à des époques très très anciennes, puisqu'on trouve, on reconnaît des structures qui ressemblent beaucoup ou qui ont l'air d'être des stromatolites et qui remontent à ces périodes de plus de 3 milliards ou 3 milliards et demi d'années. Voilà l'idée qu'on s'en fout.
Anne Nedelec, je vous propose d'écouter l'éclairage d'une biologiste, Marie-Christine Morel. Elle était l'invitée de Sophie Joubert dans un épisode précédent d'Autour de la question sur l'origine de la vie.
Toute une partie de la communauté scientifique recherche, par exemple, quand on cherche de la vie ailleurs, dans notre galaxie ou dans d'autres galaxies, on recherche la présence d'oxygène. Mais on oublie de dire que la vie sur Terre est apparue sans oxygène. Donc ce marqueur oxygène n'est pas nécessaire à la formation de la vie, à l'existence de la vie, bien qu'aujourd'hui, évidemment, sur Terre, il n'y a pas de vie possible sans oxygène pour les organismes dits aérobies, mais il existe des organismes anaérobies qui évidemment vivent tout à fait de manière permanente ou par intermittence avec ou sans absence d'oxygène. Et puis la deuxième chose que j'ai notée, mais j'ai pas pu noter parce que tout allait très vite et c'était très 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 bien, la présence d'eau liquide, parce qu'évidemment il y a de l'eau partout dans l'univers, mais l'eau existe sous forme solide,
la glace
des comètes, et puis
sous forme de vapeur.
On en trouve partout dans l'univers, mais l'eau liquide est très rare. Et donc, effectivement, on oublie souvent de mentionner qu'il n'y a pas de vie sans eau liquide, de vie telle que nous la connaissons aujourd'hui, puisque ce syntagme tel que nous connaissons aujourd'hui est devenu comme une espèce de définition de la vie. Donc, sans eau liquide, il n'y a pas de vie.
Voilà, et c'est ça qu'il faut chercher au premier chef, et on la cherche, cette eau liquide.
Absolument. Sur Mars, la recherche est très intense de traces de vie, parce que des vallées où l'eau liquide se serait écoulée ont été identifiées vraiment de manière absolument certaine. Et on sait que sur Mars, il y a eu de l'eau liquide. Mars est apparu exactement en même temps que la Terre, au moment de la formation du système solaire. Et il y a donc eu des événements très très proches de ceux qui se sont produits sur Terre, mais qui ont disparu suite à la petite masse de cette planète, enfin à toute une série de facteurs que je ne saurais pas décrire avec précision parce que je ne suis pas astrophysicienne, mais on sait que les premiers instants de la planète Mars ont été les mêmes que ceux de la Terre.
Anne Nedelec, qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire Marie-Christine Morel ?
Ah, tout ça est parfaitement juste, c'est expliqué fort bien avec de nombreux détails. Et Marie-Christine souligne les aspects importants. L'habitabilité d'une planète, c'est d'abord la présence d'eau liquide. Alors après, une planète peut être habitable sans que forcément la vie s'y soit développée. C'est effectivement la question qu'on se pose pour Mars. Mais sur Terre, il y a eu donc de l'eau très tôt. Et il y a eu de la vie,
très tôt,
la vie microbienne, mais à quel moment, on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas, puisqu'on n'a pas de traces de vie qui remontent à plus de 3,8 milliards d'années. Mais quand même.
Hein, c'est qu'on n'en a pas de traces, mais on peut supposer que la vie est quand même apparue plus tôt, les traces ne sont pas arrivées jusqu'à nous.
Oui, c'est ça. C'est le problème, en fait, de la préservation de l'enregistrement à la fois fossilifère et même également le problème de la préservation de roches de plus de 4 milliards d'années. Parce qu'on a toutes les raisons de penser que l'océan, donc l'eau liquide, était présent assez tôt, très tôt sur la Terre. Probablement, il y a plus de 4,4 milliards d'années. Donc, vous voyez, on est assez proche là, de la formation de la Terre. Mais comme on n'a pas de roches entre 4 milliards et demi et 4 milliards d'années, ben, on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas si on avait eu ce genre de roche. Est-ce qu'on aurait trouvé des stromatolites ou non ? C'est mystère. Là, il reste un mystère. Donc, les premières traces fossiles, c'est 3,8 milliards d'années sur Terre.
Alors, Marie-Christine Morel l'a évoqué. Ce qu'on pense souvent à tort, c'est que l'oxygène est arrivé avant l'eau liquide. Et là, on va faire un bond d'un milliard d'années, Anne Nedelec, depuis l'apparition de cette vie, de ces traces de vie. Pendant ce milliard d'années-ci, les bactéries de l'océan s'activent, elles continuent de s'activer, et c'est le produit de leur activité qui va provoquer le prochain grand bouleversement environnemental que la planète ait connu, justement. C'est à ce moment-là que l'oxygène apparaît. Comment est-ce que tout ça s'est mis en place ?
Alors, il est probable que très tôt, peut-être dès 3 milliards et demi d'années, en tout cas, il y a plus de 3 milliards d'années, certaines bactéries ont inventé, en quelque sorte, la photosynthèse qui produit de l'oxygène. On dit la photosynthèse oxygénique. La photosynthèse, c'est une réaction qui permet à un micro-organisme, une bactérie en l'occurrence, de former sa propre matière organique à partir du CO2. Alors là, nous sommes dans l'eau, donc c'est le CO2 dissous dans l'océan. Et la réaction de photosynthèse donne un sous-produit, un déchet même si on peut dire, qui est l'oxygène.
Donc l'oxygène est un déchet.
L'oxygène au début est un déchet. Et cet oxygène se trouve libéré dans un océan qui lui ne contient pas d'oxygène. Hein. Il est le produit de l'activité microbienne. Et il va servir à modifier déjà pour commencer la composition de l'océan. L'océan très ancien n'a pas exactement la composition de l'océan actuel, pour la bonne raison déjà qu'il n'est pas oxygéné. Si bien qu'il peut contenir des éléments dissous, comme le fer. Le fer aujourd'hui, ce n'est pas possible d'avoir du fer dissous dans l'océan parce que l'océan est oxygéné. À l'époque, il n'y a pas d'oxygène, donc l'eau de l'océan contient un peu de fer en solution. Mais face à cet oxygène produit dans les zones superficielle parce que la photosynthèse nécessite la lumière du soleil, donc ça ne peut pas se faire très très profondément dans l'océan, les eaux superficielles vont commencer à contenir un peu d'oxygène et ça va immédiatement oxyder le fer en solution dans l'eau pour former des hydroxydes ou des oxydes de fer insolubles. Les oxydes de fer insolubles précipitent, ils tombent sur le fond. Ça s'est fait pendant très longtemps, il a fallu probablement peut-être un milliard d'années pour arriver à vider en quelque sorte l'océan de son fer dissous. Et on retrouve aujourd'hui dans certains pays ces oxydes de fer précipités. On en trouve même de grandes masses, de grandes quantités dans certains pays, en Australie, au Brésil par exemple. On exploite des mines de fer géantes qui correspondent à ces oxydes de fer précipités dans des périodes très anciennes, plus de 2 milliards et demi d'années. Et c'est même extraordinaire de réaliser que la plupart du fer utilisé par nous, les humains, à plus de 90%, il provient de ces oxydes de fer précipités sous l'effet de l'oxygène produit par ces microbes très très anciens. Vous voyez, la vie a été à l'origine d'une roche et même plus précisément d'une ressource minérale qu'on utilise aujourd'hui.
Alors l'oxygène, maintenant qu'il est présent dans l'océan, on va essayer de le faire remonter à la surface et dans l'atmosphère. Vous allez nous expliquer pourquoi dans quelques instants. Et je le disais, ça va avoir une conséquence, un autre bouleversement que vous avez été étudié notamment à Madagascar. Et on va écouter justement un morceau qui va vous rappeler d'autres souvenirs, Anne Nedelec.
La sans connaître un riff, la sans connaître un riff, aïe 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 aïe. Ni tu manier d'adasnin, ni tu manier zuxusan, iao, iao, ia, ia, iao. Nandeludene kaso malasu nende ma fusan na fara sa dalatana dana rivu.
L'Endrema Maaleo dans Autour de la question avec la géologue Anne Nedelec qui publie aux éditions Odile Jacob 30 ans de recherche, La Terre et la vie, une histoire de 4 milliards d'années. Une chanson qui nous vient tout droit de Madagascar. Anne Nedelec, vous avez fait aussi un bout de chemin pour étudier la formation des continents. On n'en a pas encore parlé et il y en a un en particulier qui s'appelle le Gondwana. Racontez-nous son histoire.
Alors là, on a fait un saut, et avant de faire ce saut, je vais quand même juste faire une petite parenthèse, parce qu'on avait abandonné l'océan oxygéné à 2 milliards 3, et là, puisqu'il n'y a plus de fer à oxyder, eh bien l'oxygène qui est produit par les animaux, enfin, les micro-organismes marins, va passer dans l'atmosphère. Il y a un excès d'oxygène qui va commencer à passer dans l'atmosphère et oxygéner progressivement l'atmosphère. Et ça se produit il y a 2,3 milliards d'années. Donc vous voyez, c'est à peu près au milieu de l'histoire de la Terre, hein, par rapport à notre début. Et ce qui se passe aussi, qui a commencé un petit peu avant, c'est que des continents ont commencé à émerger. Au tout début de l'histoire de la Terre, il y a de la croûte continentale, des roches analogues à la croûte continentale, comme celle que j'avais étudiée au Cameroun. Mais on a toutes sortes de raisons de penser qu'elles n'émergent pas. Il n'y en a pas assez pour faire des continents à l'air libre. Hein. Et ça va se faire très progressivement. C'est aussi à cette période-là, enfin un peu avant peut-être, que la tectonique des plaques commence. Alors non seulement la surface des continents émergée augmente, la tectonique des plaques commence. Donc on va arriver à une activité qu'on connaît bien aujourd'hui, c'est-à-dire le déplacement. Autrefois, on croyait que c'était les continents tout seuls qui dérivaient, mais en fait, c'est les plaques qui portent les continents, qui les font voyager, qui sont responsables à ce moment-là de collisions, de volcanisme, etc.
Ça veut dire qu'elles embarquent avec eux aussi des bouts d'océan.
Absolument. Et à force, la surface de continents émergés s'accroît au fil des collisions et le Gondwana va se former comme ça vers les... Il y a 600 millions d'années, là on est vraiment très proche de, je ne vais pas dire de nous, mais presque, hein, par
C'était
rapport
hier,
à notre point
oui.
de départ. Et le Gondwana se forme ainsi à partir d'un grand nombre de fragments continentaux qui s'assemblent. Et Madagascar avait la particularité d'être un peu au milieu du Gondwana, au milieu de l'assemblage avec des morceaux provenant de l'Est, provenant de l'Ouest, donc au cœur de cet assemblage-là, dans une zone de collision qui devait être très importante, l'équivalent de l'Himalaya aujourd'hui, qu'on appelle la chaîne panafricaine, la chaîne de montagnes panafricaine. Bien sûr, complètement érodée aujourd'hui, mais on trouve les roches qui l'a constituée, on les reconnaît comme étant des roches ayant eu cette histoire particulière, cette histoire un peu tourmentée. Elles ont subi des températures et des pressions importantes. Ce sont des roches métamorphiques qui étaient au cœur de la chaîne panafricaine. Voilà, c'est ce que j'étais partie étudier à Madagascar.
Et pendant ce temps-là, la vie continue d'évoluer en parallèle à Nedelec. Et on va avoir de nouveaux organismes qui vont émerger, qui sont plus gros que ces stromatolites dont vous nous parliez au départ. À quoi ils ressemblent ?
Alors, la première étape, toujours dans l'eau, toujours dans l'océan, c'est la formation d'êtres unicellulaires encore, mais avec noyaux. Donc une cellule plus grosse que celle des bactéries, et qui est la cellule eucaryote.
Celle dont nous sommes issus.
Alors voilà, nous sommes des eucaryotes, mais pluricellulaires. Notre corps contient un très très grand nombre de cellules. On commence par faire des eucaryotes unicellulaires. Ça, on a les premiers fossiles d'eucaryotes unicellulaires à au moins 1,8 milliard d'années, peut-être un peu plus, c'est toujours le problème de l'enregistrement fossile. Mais il va falloir attendre 1,2 milliard pour avoir les premières plantes, en l'occurrence ce sont des algues, donc c'est un organisme multicellulaire végétal. Et puis les premiers animaux, là, les enregistrements, ça nous amène beaucoup plus proche de notre affaire, il y a un peu plus de 600 millions d'années.
Mais ces premiers animaux n'ont rien à voir avec ceux qu'on connaît aujourd'hui.
Alors, peut-être certains commençaient à ressembler, mais ils sont quand même différents. Mais ils commencent à ressembler un peu à des animaux d'aujourd'hui. Mais avec cette grande précaution qu'il faut signaler, c'est que nous n'avons affaire qu'à des organismes marins. Bien que les continents existent, que leur surface ait augmenté lentement et sûrement au fil du temps, les continents, ce sont des déserts. Il n'y a personne, si j'ose dire, hein, ni plantes ni animaux sur les continents avant il y a 450 millions d'années. Donc vous voyez là, c'est un nouveau chapitre de l'histoire de la Terre qui commence quand les plantes, puis les animaux, partent à la conquête des terres émergées. Et là, on est peut-être pour l'auditeur dans un domaine temporel qui est plus familier, c'est l'ère primaire. L'ère primaire, c'est là que commence la conquête des continents, la conquête des terres émergées.
Vous écoutez RFI autour de la question.
Tempête de neige sur RFI, vous me voyez venir à Nedelec. On va aborder maintenant les climats terrestres et les fameuses glaciations que notre planète a connues. Je vous propose pour cela d'écouter l'éclairage d'un climatologue que vous connaissez bien puisque vous avez travaillé avec lui. C'est Gilles Rammstein. Il était au micro de Caroline Lachowski.
Il y a à peu près 1 milliard d'années, on avait un énorme gros supercontinent qu'on appelait la Rodinia.
C'est encore avant le Gondwana.
Ouais, c'est le supercontinent précédent. Et donc ce continent s'est cassé en morceaux, comme d'habitude on pourrait dire. Sauf que là, il s'est cassé en morceaux avec les morceaux qui restaient dans la bande tropicale. Alors quelle importance ? Eh bien il se trouve que quand les continents restent dans la bande tropicale, ils sont rincés complètement. Et c'est la configuration optimale pour baisser le CO2 à l'échelle géologique dans l'atmosphère. Pourquoi ? Parce que quand il pleut beaucoup dans zone tropicale, les gouttes d'eau se chargent d'acide CO2, elles vont réagir avec le continent, elles vont faire de l'érosion de roches silicatées. Dans cette réaction-là, on va pomper du CO2 de l'atmosphère qu'on va amener au fond des océans. Et donc, dans cette configuration très particulière, on va finalement baisser le CO2, qui est effectivement un gaz à effet de serre, qui nous protège de l'englacement suffisamment pour que la Terre s'englace. Et alors, pendant très longtemps, on a pensé que si la Terre était englacée, vous savez, c'est un peu comme une boule de glace, hein, elle est très réfléchissante, alors que notre petite Terre bleue aujourd'hui, elle a ce qu'on appelle un albédo, c'est-à-dire un pouvoir réfléchissant de 0,3, et bien, quand elle est complètement glacée, bien, elle réfléchit une énorme partie de l'énergie solaire. Et du coup, pour sortir de là, et bien, il aurait fallu attendre des milliards d'années si c'était le Soleil qui nous faisait sortir de là, parce que le Soleil augmente de 7% par milliard d'années. Comme je vous ai dit que cet événement avait eu lieu il y a 600 millions d'années, attendre des milliards d'années, vous voyez bien qu'on serait encore les pieds dans la neige. Donc il a fallu un autre processus, et ce processus c'est encore le CO2. Et pourquoi ? Parce que comme quand la Terre est une boule de neige, eh bien, ben, le volcanisme continue. Et le CO2 aujourd'hui, le CO2 qui est vraiment le moteur, le changement climatique actuel, que fait une molécule de CO2 quand elle est émise? Eh bien, elle réagit avec l'océan, avec la biosphère, elle est incorporée en quelque sorte, ou alors elle reste stockée dans l'atmosphère. Mais quand la Terre est une boule de neige, elle reste stockée dans l'atmosphère, c'est la seule chose qu'elle puisse faire. Elle s'accumule, et au bout d'un moment, il fait tellement chaud à cause de ce CO2, c'est la grande débâcle. Et ça, ça se fait en quelques millions d'années. Et donc, dans l'histoire très longue de notre Terre, il y a eu deux moments, un beaucoup, beaucoup plus ancien, qu'on appelle le grand événement d'oxydation, il y a 2,4 milliards d'années, et un beaucoup plus récent, qui a eu lieu il y a 700 millions d'années, où la Terre, effectivement, a été un peu une autre Terre, une Terre totalement différente de celle qu'on connaît aujourd'hui, mais c'est instable, c'est-à-dire ça dure quelques millions d'années, hop, ça s'en va. Et tout ça est lié aux relations, si vous voulez, entre le climat et le cycle du carbone à l'échelle géologique.
La théorie de la Terre boule de neige que vous connaissez bien, Anne Nedelec, et qui a fait passer la planète bleue pour une planète blanche à ce moment-là. On a donc à ce moment-là ce qu'on peut appeler les premiers épisodes de réchauffement climatique et de refroidissement climatique.
Alors effectivement, ce sont ceux qui sont, ils sont très bien enregistrés dans l'enregistrement sédimentaire, dans les roches. Et ils sont, ce sont des changements très importants, puisqu'on passe du très chaud, du très froid au très chaud. Hein. Auparavant, dans les périodes plus anciennes, il y avait moins de... Il n'y a pas d'enregistrement de variations aussi importantes. On pense que la quantité de CO2 assez importante qui restait dans l'atmosphère équilibrait en quelque sorte, plus ou moins, un soleil plus jeune, donc moins chaud, mais finalement, plus d'effet de serre, moins de chaleur solaire, l'un dans l'autre, ça faisait un climat à peu près vivable, si j'ose dire. Par contre, il y a entre 700 et 600 millions d'années, là, ça change beaucoup. On a d'abord un refroidissement qui amène une glaciation globale, ensuite, comme l'a raconté Gilles Ramstein, une déglaciation relativement rapide. Et aujourd'hui, et ensuite, dans au cours de l'ère primaire, une alternance entre des moments où il y a des traces de glace permanente sur Terre, donc on est dans une glaciation, puis des moments où cela disparaît. Aujourd'hui, ère quaternaire, la fin de l'histoire, nous sommes encore en glaciation, hein, puisqu'il y a encore des calottes de glace permanente sur Terre, sur l'Antarctique et sur le Groenland. Le problème, c'est que ça se réchauffe vite, peut-être un petit peu trop vite pour qu'on s'y adapte. C'est la question posée aujourd'hui.
C'est la grande.
C'est la question du réchauffement global d'origine anthropique.
Dont on parle actuellement, voilà, effectivement. Voilà, oui. Merci beaucoup Anne Nedelec d'avoir été notre invitée. Merci aussi au studio de France Bleu Brésisel en Bretagne de vous avoir accompagnée et liée à nous ici à Paris. Je rappelle le titre de votre livre, La Terre et la Vie, une histoire de 4 milliards d'années, qui est paru aux éditions Odile Jacob et que vous pouvez gagner, chers auditeurs, en répondant à la question suivante sur nos réseaux sociaux, en nous envoyant la réponse par message. Qu'est-ce qui, à votre avis, de l'eau liquide ou de l'oxygène est apparu en premier sur la Terre? Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Caroline Filliette et à Hugo Violas pour m'avoir accompagnée cette semaine à la production et à la réalisation de cette émission. La semaine prochaine, vous retrouverez Caroline Lachowski à ce micro. Autour de la question, pourquoi un campus nomade euro-africain? Une émission pour présenter le programme Sud au pluriel, un programme de recherche pluridisciplinaire lancé par l'École normale supérieure en partenariat avec plusieurs universités africaines. D'ici là, n'hésitez pas à réécouter nos émissions sur RFI.fr et à vous abonner au réseau d'Autour de la question. À lundi, même heure, sur RFI.